France Inter, le 18-20.
La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand le pesticide fut venu. Plus un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle aurait bien crié famine chez la fourmi sa voisine, mais elle aussi avait clamsé faute de grains pour subsister. Voilà voilà, adieu donc mouches, moustiques, abeilles, guêpes, fourmis, scarabées, papillons, frelons, coccinelles. Qui foi d'animal vont tous finir au mieux à l'hôpital et nous aussi. La disparition des insectes inquiète les scientifiques, ils le disent, ils l'écrivent. Plus de 40% des espèces sont en déclin. Un tiers sont réellement menacés. Et s'il n'y avait plus d'insectes dans 100 ans, combien de temps nous survivrions-nous? Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter? Est-ce que tout cela est réversible? Est-ce que tous les insectes sont utiles, même les moches, même ceux qui piquent? Et qui est responsable? Les pesticides ne sont pas les seuls. Il y a aussi l'urbanisme, il y a le réchauffement climatique, on parlera de tout ça. Que ferons-nous au temps chaud? Eh bien, pour une fois, si, quelle fourmi, même combat. Et soyez les bienvenus.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
Allez Sarah, c'est vous la première. Soyez la bienvenue et bonsoir.
Bonsoir.
Allez-y Sarah.
Je voulais réagir à la présentation que vous avez faite tout à l'heure dans la précédente émission en disant les insectes sont souvent moches et méchants. Et je me suis dit, est-ce que notre imaginaire, dans la culture occidentale, l'imaginaire qu'on a des insectes étant dégoûtants, répugnants, etc., ne joue pas dans le fait qu'on ne prend pas très au sérieux cette alarme de leur disparition, alors qu'on va prendre beaucoup plus au sérieux la disparition de mammifères, voire d'oiseaux, par exemple. Et dans beaucoup d'autres sociétés, ils ne trouvent pas les insectes ni dégoûtants, ni moches. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de culturel dans le fait qu'on ne va pas prendre cette alarme au sérieux?
Merci beaucoup, Sarah, pour cette jolie entrée en matière, vous avez bien raison, parce qu'on n'a jamais vu un moustique en peluche. Ou alors, s'il vous plaît, envoyez-le-moi pour discuter ensemble jusqu'à 20h ce soir. François Lasserre, là, bonsoir. Vous êtes entomologiste et vice-président de l'Office pour les insectes et leur environnement. Et bonsoir Pierre Zagatti.
Bonsoir.
Vous êtes entomologiste aussi, spécialiste des espèces invasives à l'Institut National de la Recherche Agronomique. François Lasserre, elle a raison, Sarah, sur le principe. C'est tellement plus facile d'avoir une prise de conscience quand on parle, je sais pas, d'un lion, d'une panthère, enfin de tout ce qui peut se traduire en pluche, en fait. En gros, plus pour un moustique qui est quand même super moche en effet.
Alors ça dépend comment on le regarde. Si on le regarde de près, ça peut être très joli. Ils ont des yeux verts, certains, des antennes très plumeuses, donc c'est très subjectif. Mais là où elle a raison, c'est qu'en fait, c'est bien sûr culturel, mais c'est aussi un peu à cause d'un biais cognitif qu'on a, un biais du cerveau, c'est-à-dire que notre cerveau va retenir surtout des anecdotes et surtout ce qui lui plaît pas.
Mm-hmm.
Et en fait, les insectes, déjà les insectes, ça veut en fait strictement mm-hmm. rien dire. C'est ouais. une espèce d'énorme tas. Il y a mm-hmm. tout et son contraire à l'intérieur de les insectes. Et donc, on est un peu victime de quelques espèces qui nous embêtent sur l'immensité mm-hmm. du monde des insectes. Il y a quelques espèces qui nous embêtent et parmi ces espèces, c'est que quelques individus. Et donc, effectivement, si on n'a pas envie de réfléchir et si on se laisse avoir par notre instinct, en quelque sorte, bah, effectivement, on les met tous dans le même panier et les insectes nous ennuient. Mais en fait, ceux qui nous ennuient réellement sont très peu nombreux.
Pierre Zagatti, je me souviens que j'ai déjà posé cette question quand on parlait d'oiseaux et je m'étais déjà fait engueuler, donc c'est pas grave, je vais y aller quand même. À quoi ça sert? Parce que les abeilles, on comprend la pollinisation, les coccinelles, on comprend aussi, on voit l'interaction qu'il peut y avoir avec l'agriculture, avec les moucherons, c'est des choses qu'on a même appris à l'école. À quoi ça sert un moustique, à part le palu, franchement? À quoi ça sert un cafard? Par exemple, quand on dit qu'il faut les protéger, et quand on dit effectivement, et quand je me fais engueuler parce que c'est le cas, parce que je les ai traités de moches et de méchants, est-ce qu'ils ont tous la même utilité, en fait?
Voilà, alors typiquement, on a une façon de raisonner qui met en avant le bénéfice pour l'homme.
Mm-hmm.
En fait, il y a deux choses qui sont équivalentes. Il y a ce qu'on appelle le fonctionnement des écosystèmes et ce qu'on appelle les services écosystémiques. En fait, c'est à peu près exactement la même chose, sauf que dans le premier cas, on a une vision très biologique, très environnementale de la chose. Et dans le deuxième cas, on ne voit que ce qui est immédiatement bénéficiaire à l'homme.
Mais donc, par exemple, le moustique, sérieusement, ça sert à quelque chose? Si demain, il n'y a plus de moustique, est-ce que c'est grave?
Oui, c'est grave, parce qu'il n'y aura plus de poissons, il n'y aura plus d'oiseaux, il n'y aura plus de toutes ces espèces qui se nourrissent de la manne énorme, la biomasse énorme que font les insectes, y compris les larves de moustiques dans l'eau, y compris les moustiques volants dans le ciel. Et on a une étude qui date de il y a quelques années, qui a été faite au Canada, où des chercheurs ont réussi à explorer le guano des martinets, des oiseaux martinets qui s'étaient déposés au fil des années dans une cheminée. Et ils se sont aperçus que au moment où les pesticides sont arrivés, dans les années 50, le DDT notamment, on a eu une modification considérable du régime alimentaire de ces martinets et que du coup, ils avaient beaucoup plus de difficultés à se reproduire parce que la qualité de leur nourriture avait changé. Voilà, c'est une des rares, un des rares exemples documentés quantitatifs qu'on ait sur ce sujet.
Et puisqu'on en parlait tout à l'heure, à quoi sert un cafard, sincèrement, puisqu'on est dans les moches et qui nous font peur, en fait, nous les humains, vous avez raison, parce qu'on le prend toujours du point de vue de l'humain. Est-ce que, je me souviens de ce qu'on nous racontait de nous quand on était petit, à une explosion nucléaire survivrait le cafard. D'abord, est-ce que c'est une légende? Et lui, il sert à quoi, en fait? Est-ce que ce serait grave s'il disparaissait?
Alors pendant longtemps, je l'ai même écrit longtemps, j'aurais répondu, parce que là vous me demandez des rôles écologiques et qui vous seraient directement bénéfiques, ce que disait Pierre. Donc pendant longtemps je vous aurais sorti, et je peux le faire ce soir, la longue liste des effets, disons, bénéfiques dans un écosystème, des moustiques y compris des cafards. Mais j'ai maintenant simplement envie de vous répondre, mais avec sans aucune malveillance, et vous, à quoi servez-vous?
On m'avait déjà fait le coup avec les oiseaux la dernière fois, faudra arrêter maintenant.
Alors, mais parce que c'est une vraie question, en fait. On exige des animaux non humains, des insectes, pour qu'ils puissent, pour que l'humain puisse les autoriser à vivre sur Terre, des rôles écologiques que nous-mêmes nous tenons pas. Donc ce serait formidable de les aimer pour ce qu'ils sont, mais bien sûr que parmi les moustiques, il y en a qui nous en mettent, mais bien sûr que l'immense majorité des moustiques ne nous piquent pas. Il y a plus de 2500 espèces sur Terre. Il y en a certainement plus. Il y en a plein. Il y en a très peu qui finalement nous piquent. Et alors maintenant, je vais quand même essayer de répondre à votre question. C'est ce que disait Pierre, les larves de moustiques. Alors vous m'avez parlé des cafards.
Oui, des cafards. Mais par exemple, je pose la question sérieusement parce que ça fait partie de ces espèces qu'on essaye d'exterminer, pour le coup.
Donc alors, est-ce qu'on se tire une balle dans le pied? On essaye d'exterminer 2-3 espèces. Il y a 300 espèces de cafards à peu près par chez nous. Et il y a 2-3 espèces qui vivent au contact de l'homme. Et en fait, bon, c'est un épiphénomène du passé urbain de l'homme et des espèces qui sont certainement arrivées d'ailleurs avec les colonisations romaines. Et les autres sont des nettoyeurs de la nature ordinaire.
Mais on se tire une balle dans le pied en les exterminant, sérieusement ou pas?
Alors, ça dépend desquels. Ce serait très difficile de répondre. Mais là, on est encore. C'est vrai qu'on parle, et c'est vrai que certains moustiques nous embêtent, et c'est vrai évidemment que certains moustiques transportent des maladies et tuent des centaines de milliers de personnes, et surtout des enfants d'ailleurs chaque année. Et bien sûr. Mais on est encore. Alors donc cela, on est tous les entomologistes sont d'accord pour faire quelque chose. Vous voyez, il n'y a aucun entomologiste qui aime les insectes et qui va dire non, laissons le palu nous embêter, ou évidemment que non. Mais on parle encore une fois d'une quantité vraiment infime pour lesquelles il y a des moyens qui sont mis en place, alors peut-être pas assez, mais en tout cas il y a des moyens. En revanche, nous, on serait plutôt là pour dire, alors ceux-là sont vraiment, nous embêtent vraiment, mais en revanche, l'immense majorité des insectes, de façon complètement subjective, en fait, bossent pour nous dans la nature.
Bonsoir Dust.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu, on vous écoute.
Merci de prendre mon appel déjà, et merci de votre émission qui est toujours passionnante. Moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai travaillé quelques années pour les compagnies phytosanitaires, ce qu'on appelle un peu une partie de Big Pharma. Et mon boulot, c'était d'organiser des mini-génocides d'insectes, de champignons, de plantes, suivant le thème. Et je me suis aperçu assez vite du mésamour qu'ont les humains pour ces bestioles. En fait, ma conscience écologique, elle s'est réveillée grâce à Bayer et le produit qui s'appelait le Gaucho, qui a été interdit après une bataille mémorable à Saint-Gaudens, au tribunal de Saint-Gaudens. Et depuis, je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, c'est vrai, comme disaient vos intervenants, il n'y a pas beaucoup d'insectes qui vous embêtent, mais on manque de culture pour se protéger de leurs dégâts sans utiliser une armada chimique qui est souvent radicale. Il faut savoir quand même que bon, sans insectes, c'est 80% des espèces cultivées qui vont avoir des problèmes de reproduction. Tous les légumes, tous les fruits sont pollinisés par des insectes. Pas forcément des abeilles, il faut bien être au courant de ça. Il y a des bourdons, il y a des tas de bestioles qui se baladent sur les fleurs et qui aident à la reproduction de ces trucs, de ces plantes. Du coup, il va nous rester quoi? Il va nous rester les céréales. Et ça, ce phénomène-là, c'est pas que ça va peut-être entraîner la disparition de l'humanité, mais ce qui est sûr, c'est que ça va entraîner des gros problèmes sanitaires, parce que il n'y aura pas beaucoup de personnes qui pourront se payer des fruits pollinisés au pinceau comme ça se passe dans certains coins de Chine. Et donc notre espèce, à nous en tout cas, elle va vraiment elle va vraiment ramasser.
Merci beaucoup pour votre intervention, Dust. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je voudrais revenir. Pierre Zagatti, par exemple. D'abord, est-ce que les pesticides dont nous parle Dust sont les seuls responsables de la rapidité de l'extinction des insectes? Ou est-ce qu'on les met en tête, même s'il n'y a pas que ça?
Non. Alors, okay. Dans une étude très récente, là, on ne met pas les pesticides en tête. On met en tête la destruction des habitats des insectes, l'urbanisation, mm-hmm. l'artificialisation des sols, la conversion de prairies en agriculture intensive ou d'agriculture extensive traditionnelle mm-hmm. en agriculture intensive. C'est ce qui est mis en tête en premier dans cette étude. Maintenant, cette étude, elle a un énorme biais. C'est que c'est une revue biographique des travaux qui ont été publiés et on n'a quasiment rien sur le milieu tropical à ce niveau-là. Donc, c'est certain que dans nos milieux développés, dans nos pays occidentaux, c'est certainement la destruction des habitats qui est la cause principale.
Pardon, allez-y, finissez.
Oui, mais il ne faut pas oublier que dans les tropiques, dans la forêt humide, hein, tropicale, on a beaucoup plus d'insectes que chez nous, et que là, on manque totalement de références, sauf à avoir une déforestation galopante.
Alors voilà, j'allais vous poser la question, est-ce que le phénomène d'extinction qu'on voit, de très grande fragilité qu'on voit aujourd'hui, est-ce qu'il est occidental, j'allais dire, donc c'est dans nos pays, à cause de l'urbanisation, en partie peut-être des pesticides, ou est-ce qu'on voit la même chose ailleurs, dans des pays qui sont très différents, voire là où sont des habitats beaucoup plus importants d'insectes? François Lasserre.
Là, l'étude, c'est vrai, c'est plutôt Europe, Amérique du Nord et quelques endroits très... Mais en fait, comme on dit, on a tous envie un peu presque de faire la même chose, de vivre un peu tous... de cette façon, de façon très confortable, quoi qu'il arrive, ceux qui essayent de refaire comme nous font exactement la même chose chez eux, c'est-à-dire ils occupent l'espace sans penser aux autres. Alors il y a quelques différences culturelles à travers le monde, mais dans l'ensemble, quand Sapiens a décidé de s'installer quelque part et qu'il a les moyens, il fait pas beaucoup au regard des autres. Alors jusque-là, on pensait qu'il y avait des autres, des insectes ou des mammifères ou des oiseaux un peu partout, et ça y est, on se rend compte que finalement, cette façon d'occuper l'espace a vraiment un impact, et maintenant c'est mesuré. Avant c'était du doigt mouillé, maintenant ça y est, les
études... Mais surtout les insectes, d'ailleurs, parce que vous l'avez précisé au début, il y en a des centaines de milliers, donc on se dit que...
Un million d'espèces.
Voilà, un million d'espèces, imaginez ça. Donc là, on se dit que la manne est inépuisable au fond, en fait. Et qui sont costauds, surtout aussi, d'ailleurs.
Alors, en fait, certains sont évidemment très costauds, et c'est surtout leur propension à se reproduire très très vite. Donc du coup, ils évoluent ils ont la capacité, la possibilité d'évoluer très vite face à des contraintes environnementales. En revanche, sur ces 1 million d'espèces, et encore, on dit 1 million d'espèces, c'est 1 million d'espèces sur lesquelles on a mis un nom. Mm-hmm. Mais en fait, ça se trouve, il y a 5, 3, 8, 10, 20 millions d'espèces. En fait, on n'en sait rien. Mais c'est surtout la qualité. Parce que si on ne fait pas attention aux insectes, si on ne les regarde pas dans le blanc des yeux, ou dans le bleu des yeux, s'il s'agit d'une libellule, ou d'une mouche, ou d'un thon, parce qu'il y a des thons qui ont des yeux bleus, on se rend pas compte.
Les yeux verts, j'ai retenu ce que
vous
disiez.
Et il y a certains moustiques avec des yeux verts. On ne se rend pas compte qu'en fait, si on ne fait pas attention, effectivement, il y a toujours des insectes autour de nous. Mais ceux qu'on voit, c'est plutôt toujours les mêmes. Et donc, c'est très peu qualitatif. Et en fait, l'entomologiste, le naturaliste, lui, il sait qu'en France, par exemple, il y a plus de 40 000 espèces d'insectes. Mais on ne peut pas trouver ces 40 000 espèces d'insectes si les milieux sont tous les mêmes et très anthropisés. Et donc, c'est ça que voient les naturalistes, c'est qu'en fait, la diversité, la qualité des espèces et la diversité diminuent fortement. Et donc, si on fait attention, en fait, il n'y a que quelques espèces d'insectes qui nous entourent.
Pierre Zagatti.
Oui, le biologiste parle souvent d'espèces généralistes et d'espèces spécialistes. Bon, pour donner un exemple sur l'excellente intervention de l'auditeur précédent, la pollinisation. On a des abeilles sauvages qui pollinisent tout un tas d'espèces végétales et d'autres qui sont spécialisées sur une seule espèce. Et ça, c'est vrai pour des prédateurs, c'est vrai pour des parasites, etc. Il y a des spécialistes et des généralistes. Et on s'aperçoit généralement que ce sont ces spécialistes qui sont les plus affectés et qui disparaissent en premier.
Et dans la question de notre ami Dust, il y avait un chiffre, il disait que 80% en gros des cultures pouvaient disparaître, il parlait notamment des fruits et légumes, faute de pollinisation. Est-ce que c'est un chiffre réel, effectivement? Est-ce qu'on est si haut?
Je crois que c'est plus 75. Mais ce qu'il y a, c'est que ce sont les phanérogames, les dicotylédones qui sont pollinisés par les insectes, les céréales, les graminées ne le sont pas. Ils sont pollinisés par le vent, par des moyens naturels ou autres. Et par contre, si on regarde ce que mange l'humanité, on n'est pas à 80%. Hein. Mmh. On mange beaucoup plus de céréales que de fruits et légumes dicotylédones. Et donc, en fait, c'est vrai qu'il y aurait 80% ou 75% des espèces végétales qui disparaîtraient, mais certainement pas 80% de notre source alimentaire.
Ça veut dire que si demain, faire une espèce de politique fiction, effectivement, qui rime pas à grand-chose, mais juste pour comprendre, si demain, là, il n'y a plus d'insectes du tout, l'humanité ne meurt pas de faim, mais elle doit changer intégralement son régime alimentaire, au fond. C'est ça que ça veut dire.
Si demain, les pollinisateurs, c'est-à-dire l'immense majorité des pollinisateurs, enfin une grande partie des insectes, parce qu'il y a plus de 10 000 espèces d'insectes pollinisatrices en France, disparaît, les fleurs que vous voyez, en fait, ont coévolué avec les insectes, celles qui se repèrent ont coévolué avec les insectes, et les fleurs n'existent, c'est des organes sexuels, n'existent que parce que les insectes, il y a des insectes, vous voyez, ils ont évolué ensemble. Et donc, si demain on supprime tous ces insectes, toutes ces fleurs ne se transformeront plus en fruits. Et qui dit fruits, dit aubergines, courgettes, concombres, etc. Tout ça, ce sont des fruits d'un point de vue botanique. Il n'y a pas que la tomate qui est un légume-fruit. Mm-hmm. Donc, on parle de 30% de notre alimentation. À ce jour, il y a environ 30% de notre alimentation, un tiers de votre assiette, qui est le résultat des insectes pollinisateurs. Donc, on aurait effectivement une nourriture extrêmement pauvre, puisqu'on ne mangerait que des féculents, par exemple.
Bonsoir, François.
Bonsoir, madame.
Soyez le bienvenu, François, on vous écoute.
Je voulais vous demander, donc moi j'habite à la campagne.
Ok.
En vous écoutant, je viens de remplir ma mangeoire à oiseaux. Mm-hmm. Et je voulais, pour dire les oiseaux. Et je voulais savoir, qu'est-ce que je peux faire, moi, à la campagne, pour aider les insectes, pour les aider à se reproduire, quoi. Est-ce que je peux, est-ce que je peux faire quelque chose dans ma campagne pour qu'il y ait plus d'insectes dans mon jardin?
Merci François. Est-ce qu'on peut, Pierre Zagatti, est-ce qu'on peut faire venir des insectes, enfin qu'ils puissent vivre leur vie d'insectes dans le jardin de François?
Il y a tout un tas de comportements, si vous voulez, qui favorisent des insectes. Bon, ça va être d'avoir des fleurs mellifères. Hein, pour les pollinisateurs, parce que le problème des abeilles domestiques et sauvages, c'est d'avoir à manger, donc d'avoir des fleurs qui leur donnent du nectar. Il faut faire des abris, des gîtes, surtout avoir un jardin qui soit très divers au milieu au niveau des habitats, des petits habitats pour les insectes, avoir quelque part un tas de bois qu'on laisse pourrir sur place. En plus, il y aura un hérisson dessous, etc. Il y a tout un tas de comportements. Ne pas avoir forcément une pelouse de raies gras qu'on tond
comme
une coupe de cheveux, ne pas avoir nécessairement tout un tas de haies, de conifères absolument étrangères, mais plutôt avoir une haie vive d'aubépines, d'églantiers et de charmes, où les oiseaux se mettront et où les insectes pourront s'installer.
Il faut avoir un jardin un peu foutraque, en fait. C'est comme ça que c'est le plus joli.
Oui, il faut changer de paradigme, il faut changer de culture. C'est très compliqué dans le pays des jardins à la française, parce que dans lequel on ne peut pas s'empêcher de jardiner. Il faut résister à la pression sociale de tous vos amis qui, quand ils arrivent chez vous, vont vous dire « Ah ben non, c'est vraiment dégoûtant ton jardin, faudrait peut-être un peu le tailler.
Oui, »
Alors, et l'entomologiste...
C'est vrai qu'il y a des endroits où c'est interdit, je dis ça très sérieusement, où il faut absolument tailler sa pelouse, tondre sa pelouse, parce qu'il faut que les pelouses se ressemblent.
Oui, tout à fait. Il y a plein de critères complètement subjectifs et très culturels. Et en fait, il y a quelque chose qui est très simple, parce qu'en fait, l'entomologie, la science des insectes, c'est extrêmement compliqué, parce qu'ils sont très variés, ils sont très spécialisés. Donc, si vous voulez avoir tel insecte, il faut telle plante dans votre jardin, il faut tel abri, etc. Donc, il faut commencer à être un peu technique. Donc, il y a un truc très facile. J'ai envie de dire que ce serait, l'accueil des insectes pour les nuls, c'est de laisser tranquille, de laisser faire. Quasiment à aucun endroit sur Terre, on va rester en France, en Europe, à aucun endroit en France, on laisse la nature tranquille. Ça n'existe pas. Et c'est très compliqué de le faire, y compris pour des naturalistes et des spécialistes. Mmh. Il y a très peu d'endroits où ils ont dit, là, on laisse faire, même s'il y a des espèces qui arrivent d'ailleurs et tout, on les enlève pas, on laisse tranquille. C'est quelque chose qu'on a du mal à faire. Donc, on est des jardiniers. Sapiens, c'est un vrai jardinier, culturellement. Et donc, il faut essayer de changer de culture, de laisser tranquille. Alors, vous pouvez commencer par 1 mètre carré, 2 mètres carrés, 10%, 20%, peu importe, mais des endroits où vous ne faites rien.
Isabelle nous envoie ce charmant message. Elle nous dit « Bonsoir, je suis tellement triste de la disparition des insectes. Pas trop pour les insectes, à vrai dire, dit-elle, mais pour les oiseaux, pour les grenouilles. Les insectes, c'est la nourriture d'un tas de bestioles qui sont belles, qui sont drôles, qui sont chanteuses. Et on sait que ces bêtes meurent de nous aussi. » Elle a raison, effectivement. Est-ce qu'on sait combien d'espèces se nourrissent d'insectes? Pardon, je vais surtout pas vous piéger, mais est-ce qu'on a une idée ou pas?
Bah, il y a au moins autant d'oiseaux, sinon davantage insectivores que granivores. On a des oiseaux comme tous les sédentaires, hein, les mésanges, les rouges-gorges qui changent de régime en hiver et en été. Hein, ils sont granivores en hiver et insectivores en été. Quasiment tous les migrateurs sont des insectivores, enfin les petits, j'entends, pas les rapaces évidemment, sont des insectivores. Après, bon, il y a toute une cohorte de mammifères qui sont insectivores et l'immense majorité des reptiles, des amphibiens au niveau vertébré. Les poissons échappent à ça, sauf les poissons d'eau douce, parce qu'il n'y a pas d'insectes dans la mer. Allez. Très très peu.
Oui, comme vous dites, c'est le seul endroit effectivement sur Terre partout, en mer beaucoup moins. Florence nous dit qu'il existe de très charmantes peluches de moustiques, oui, mouches, vrai, coccinelles et autres, donc je bats ma coulpe. D'ailleurs j'en ai reçu une même sur Twitter, donc arrêtez de m'envoyer des photos de moustiques en peluche, c'est bon, le message est passé. On va même en acheter une, tiens, pour le bureau. Allez, c'est dit. Jean-Yves, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Jean-Yves.
Ah, donc je vais vous parler de l'arbre un petit peu, parce que c'est quand même le levier le plus important de lutte contre le réchauffement climatique, parce qu'un arbre local va stocker du carbone, mais il va nourrir aussi des milliers d'oiseaux par ses fruits, par ses insectes, etc. Il va être le refuge. Et donc, on a nos paysages qui sont en déshérence, nos paysages de bocage à 90% en sénescence. On n'a pas de... pas de place aux jeunes, comme dans notre société, on ne met pas les jeunes en lumière. Donc on n'a pas de régénération de nos paysages, nos bords de route, nos bords de champs, nos bords de rivière, c'est une catastrophe, quoi. Donc les forêts, ça va pas mieux, puisqu'elle est sous le coup, sous la coupe des spéculateurs. On replante des forêts adaptées au marché et non pas au sol. Donc très fragile aux incendies, aux attaques d'insectes. Donc nous, au travail, on a fait une charte de l'arbre indispensable qui pour faire des projets locaux, des projets de territoire. Il faut qu'on optimise nos ressources, nos possibilités. Réutiliser notre arbre qui est en fin de vie, au lieu d'aller en faire du copeaux, ben non, il va faire des planches, il va servir dans l'économie. Donc on a cette la charte de l'arbre indispensable. On est un peu on est partout, mais juste le volet pesticide qu'on connaît bien, je suis quand même un ancien militant sur le sujet. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'on commence à faire quelque chose et non pas des réunions et des réunions, etc. Il faut qu'on ait des zones d'expérimentation sur assez grandes, une par région. Là, on pense, nous, à un bassin versant d'eau potable de 6000 hectares, où on avait abattu à près de 1000 km de haies autour d'une réserve d'eau potable. Et donc, il faut qu'on ait l'arrêt des pesticides. Va provoquer le changement de l'agriculture. On ne changera rien autrement. Donc, si vous arrêtez les pesticides, on pourra changer d'agriculture, mais il sera obligé de changer d'agriculture.
Et on
donc,
voit
commençons qu'on... sur les réserves d'eau potable, sur des endroits liés à la santé publique. Il faut qu'on arrête ça. Voilà. Donc, cette réserve, on a enlevé sur à peu près 8000 hectares sur deux communes, 1000 km de haies calibrées. Et donc, remettre ce paysage en fonction, c'est un défi. Il y a des compétences.
Merci beaucoup, Jean-Yves. Merci beaucoup pour votre témoignage. Remettre le paysage en fonction, François Lasserre, il a raison, Jean-Yves. C'est des choses qu'on fait, c'est intéressant. On le fait après certaines catastrophes, on le fait après des inondations, on comprend qu'on a trop demandé au sol, etc. On le fait rarement quand il s'agit de faire ressurgir des arbres et donc les insectes et le reste qui va avec, en fait.
Mais c'est les tentatives qu'on voit émerger ça et là, l'agriculture, la permaculture, etc. Mmh. C'est de remettre un peu ce que disait Pierre, un peu de diversité, un peu de nourriture, un peu de cachette, un peu d'abri, évidemment. Alors malheureusement, on est obligé de rappeler quelle que soit la culture, on est bien obligé de tuer les insectes, donc on sera toujours obligé d'utiliser des pesticides, malheureusement, qu'ils soient de chimie de synthèse ou de chimie naturelle, puisque c'est certaines espèces et certains individus sont une concurrence pour nous, puisque quand ils mangent nos aliments, on est évidemment donc un monde sans pesticides est évidemment...
Sauf à accepter cette concurrence.
Alors oui, mais il faut qu'il nous en reste à la fin. C'est-à-dire que nos cultures, voilà, qu'elles soient bio ou non, il faut tuer certains insectes, mais c'est encore une fois que certaines espèces à des moments précis, dans des conditions particulières. C'est pas tous les insectes.
Vous allez vous faire des ennemis, François Lasserre. Il faudra toujours utiliser des pesticides, vous avez dit, Pierre Zagatti. Vous pensez est-ce qu'on peut imaginer
J'entends pesticides, on est d'accord, hein, qu'ils soient de chimie de synthèse ou de chimie naturelle.
On a bien compris, vous ne parlez pas
même la bouillie bordelaise, ou... enfin non, c'est pas pour tuer les insectes, mais...
Ben, c'est-à-dire que l'agriculture est un déséquilibre permanent. La nature voudrait, dans un endroit ouvert, faire pousser 150 espèces de plantes, là où l'agriculteur veut en faire pousser.
Ça, c'est un déséquilibre, pas un déséquilibre, un déséquilibre.
Un déséquilibre, en un mot, puisque l'agriculteur va se battre, que ça soit avec ses mains nues pour désherber ou avec des pesticides, pour favoriser une espèce de plante, celle qu'il nourrit, au détriment de toutes celles que la nature voudrait faire pousser. Donc, si vous voulez, ça fait des milliers d'années que ça dure, comme ça. Cependant, on s'aperçoit d'une chose, c'est que tous ces ravageurs des cultures, comme on dit encore, qu'on disait autrefois, ils ont des ennemis naturels. Et que dans les situations où on est beaucoup plus permissif avec la nature, ces ennemis naturels sont beaucoup plus efficaces. Alors, c'est pour ça que je dis, je ne suis pas persuadé qu'on ne pourra jamais se passer de pesticides. Bon, il y a des expériences qui montrent. Par contre, c'est vrai que les rendements s'en ressentiront. C'est vrai qu'on n'a pas la même productivité jusqu'à un certain point, puisque à force d'empoisonner les sols, par exemple, il y a un moment où ça pousse beaucoup moins bien quand même.
Tiens, on revient.
Ce que ça veut dire, c'est que par exemple, ce que dit Pierre, il a parfaitement raison, c'est que si par exemple on réduisait un peu les champs et qu'on remettait par exemple des haies autour ou des abris où il y a plein de prédateurs naturels, des pestes entre guillemets, effectivement, ce serait un monde formidable. Mais ça voudrait dire vraiment. C'est vraiment changer de culture. Mais à ce jour, sur des gros immenses champs comme ça, c'est très compliqué d'avoir autant de prédateurs pour autant de proies.
Gilles veut qu'on revienne un tout petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Il dit le tique, ça sert à rien. Nos maladies, la maladie de Lyme par exemple. Est-ce que le tique fait partie de ces insectes? Est-ce que c'est
dans
le...
un insecte.
Voilà, j'allais vous poser la question. C'est un insecte?
C'est un arachnide, mais on prend quand même. Et c'est vrai qu'elle nous embête la tique, parce que bon, alors c'est pas toutes les tiques qui sont porteuses. Alors la maladie de Lyme, on peut pas ouvrir ce sujet, c'est un vrai sujet. Mais si elle régule les populations de mammifères, elle tue. Mais quand le mammifère c'est nous, ça, c'est très embêtant.
C'est assez ennuyeux. Dans ma commune, ce message encore sur franceinter.fr. Dans ma commune, les apiculteurs ont distribué des pièges contre les frelons asiatiques. D'autres insectes que ces frelons vont vraisemblablement être piégés. Cela ne risque-t-il pas d'affaiblir d'autres populations d'insectes? Est-ce qu'il est bien sage d'installer ces pièges?
Alors évidemment que non. En revanche, ça fait du bien à des apiculteurs déjà un peu stressés de penser qu'on va tuer tous les frelons. Mais cette histoire de frelons asiatiques, bon, c'est un vrai sujet, on pourrait y passer la soirée, mais stigmatise pas mal de notre vision assez subjective de la nature. Voilà, on a nos têtes, il y en a qui ont le droit de vivre, d'autres non. Pourquoi l'abeille aura le droit de vivre? Parce qu'elle nous apporte
du miel.
Parce qu'elle nous fait du miel, parce que c'est pas elle qui pollinise tous les champs, c'est tous les insectes pollinisateurs, elle est loin de tout polliniser. Donc c'est surtout parce qu'elle nous procure du miel, et donc du coup, pour ça, on a dans le blaire, comme disait mon grand-père, le frelon asiatique. C'est vrai qu'à certains endroits, il est très ennuyeux, mais ce ne sont pas, encore une fois, tous les frelons asiatiques. Et en plus, dès qu'une espèce comme ça nous embête un petit peu, on ne voit plus jamais aucun bénéfice. Donc, on vous dit jamais que le frelon asiatique a des aspects positifs. Il en a forcément. Et puis surtout, qu'est-ce que c'est que cette façon d'aimer la nature? On dit qu'on aime les insectes, qu'on aime la nature, qu'on aime les abeilles, mais en revanche, on a nos têtes. Celui-là, non, lui, je ne l'aime pas.
On aime
ceux qui bossent pour nous, encore à ce jour. Et je rêve d'un jour où on dira, on aime la nature pour ce qu'elle est, et je gère le problème avec telles espèces localement, je gère ce problème-là, j'ai un problème de frelon asiatique sur ma ruche à cet endroit, je vais gérer ce problème. En revanche, ma haine vis-à-vis du vivant comme ça ne servira pas à l'exterminer, c'est pas pour ça qu'il va partir.
Allez, question très pratique, c'est celle de Jean-Baptiste. Bonsoir Jean-Baptiste.
Oui, bonsoir. Merci de prendre mon appel. Oui, c'était une question assez technique sur la pyrale du buis. Je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'indiquer comment lutter contre la pyrale du buis sans nuire aux autres populations d'insectes. Jusqu'à présent, j'utilise le Bacillus thuringiensis, je crois. Mais j'ai entendu dire que ça pouvait nuire aux autres populations d'insectes. Est-ce que vous connaissez d'autres méthodes?
Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Pierre Zagatti. François Lasserre, très lâchement, a dit c'est lui. Donc, allez-y.
Non, parce que je vais encore parler de notre... Mais Pierre saura répondre.
Allez-y.
Bon, le Bacillus thuringiensis, c'est très bien. C'est un insecticide naturel. Hein. C'est le cristal d'un champignon. Et ça tue toutes les chenilles de papillon. Toutes. Quand elles mangent cet insecticide.
Donc c'est un souci.
C'est un souci, oui. Alors évidemment, si vous avez sur du buis, vous n'avez plus que de la pyrale du buis, vous allez tuer les pyrales du buis. Mais bon, alors c'est sans danger, apparemment, pour les oiseaux qui peuvent les manger. Mais
c'est une chenille.
C'est une chenille assez grosse. Hein, Alors moi, ce que je pense, hein, parce que l'expérience a montré que pratiquement à chaque fois, c'est ce qui se passait, c'est que d'ici quelques années, on aura beaucoup moins de problèmes avec la pyrale du buis. Pourquoi ? Parce que on va sélectionner les prédateurs les plus efficaces, qui, par rapport à la manne alimentaire dont ils disposent, les mésanges par exemple, vont s'adapter et on va sélectionner celles qui seront les plus efficaces. Et donc, on va voir la menace spirale du buis s'abaisser dans les années à venir. Au bout de combien de temps, j'en sais rien du tout. Et on va avoir, au bout d'un certain temps, l'établissement d'une population chez nous de cette pyrale qui devrait rester, je l'espère, à des niveaux raisonnables. Il est impossible d'éradiquer ce genre d'insectes. On n'arrive pas à éradiquer les insectes. La seule éradication d'un insecte qui est possible, c'est dans des espaces fermés, genre une île ou une chose comme ça. Mais sur un continent, quelle que soit l'espèce, c'est impossible. Enfin, les envahisseurs, j'entends.
Cathy nous dit, pourquoi y a-t-il, n'y a-t-il plus de hannetons ? Est-ce qu'il y a plus de hannetons, sérieusement ? Il y a moins de hannetons aujourd'hui qu'il y en a eu ? Pierre Zagatti,
alors, vous avez l'air de dire oui. C'est assez mal compris. Oui, c'est vrai, hein, il y a beaucoup moins de hannetons. Sauf qu'il y a deux ans, il y a eu une population de hannetons des forêts, dans les forêts de l'Île-de-France notamment. Mais globalement, on a une diminution très importante des gros insectes. Que ça soit des hannetons, que ça soit des sauterelles, que ça soit des gros papillons. Et alors, vous savez que le hanneton, il a une larve qu'on appelle le ver blanc, qui vit dans le sol, notamment dans le sol des prairies. Et on peut penser que c'est la conversion des sols, hein, soit en artificialisation, soit en agriculture intensive, qui a porté un coup fatal aux populations de hannetons, en tout cas le hanneton commun.
Et là, on parle du gros.
François Lasserre.
Elle parle du gros. Et en fait, il y a plus de 100 espèces de hannetons, je crois, en France. Donc, il y en a qui se portent un peu mieux. Mais c'est surtout une seule espèce, cette espèce qu'on voyait beaucoup dans les années 50-60 et pour lesquelles on a même fait venir des évêques pour excommunier les populations. Enfin, c'était un vrai souci, mais c'est juste cette espèce sur plus de 100 espèces d'hannetons.
Bonsoir, Mathias.
Oui, bonsoir.
Bienvenue, Mathias. On vous écoute.
Eh bien, merci de recevoir mon appel. Donc voilà, moi je suis apiculteur depuis presque 10 ans. J'ai commencé à m'installer il y a 7 ans. Je suis actuellement en Ariège. Je suis venu m'installer en Ariège parce que c'était les Pyrénées, parce que c'était sauvage, parce que la nature était préservée. Et en fait, je suis arrivé en Ariège en 2013. Et entre 2013 et 2014, j'avais une centaine de ruches. J'en ai perdu 50%. L'année d'après, ça a été, j'ai perdu 15%. L'autre année d'après, j'ai perdu 70%. Donc, enfin, c'est difficile de donner tous les chiffres sur ce que j'ai perdu. Voilà, et toutes les histoires qu'il y a pu avoir autour de ça. On a réussi à créer un collectif qui s'est un petit peu divisé parce qu'on n'est plus tous d'accord sur les vrais problèmes qu'on a avec les abeilles. Mmh. Aujourd'hui, on met les apiculteurs les uns contre les autres un petit peu avec l'histoire de la varroa, qui est un acarien, encore un autre insecte, on peut dire. Enfin, je sais pas si on peut le classer comme insecte, mais... et en fait, voilà, ben, tout est mis en place pour que les apiculteurs soient fixé sur le problème de la varroa avant la mise en hivernage. Si on fait pas de traitement contre la varroa, il est clair qu'on a des affaiblissements de colonies très importants, surtout certaines qui passeraient pas l'hiver, c'est vrai. Mais quand même, ce qui est incroyable, par exemple pour moi cette année, c'est que je vais avoir à peu près entre 30 et 40% de mortalité, et que mes mortalités, alors que j'ai une rigueur de plus en plus forte contre la varroa, donc à lutter avec, même si je suis en bio, je suis avec un label bio Nature et Progrès, donc j'ai des exigences un petit peu plus élevées que le label bio. Mmh. Et en fait, par exemple, j'ai un endroit où ben, j'avais 23 ruches, il n'en reste plus que 2, et un autre endroit où j'en ai 24, et elles sont toutes là.
Merci Mathias. Alors, pardon Mathias, je vous interromps, mais il faudrait le temps de pouvoir vous répondre. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Mathias, François Lasserre?
Alors là, on parle d'un autre sujet. Là, tout à l'heure, on parlait de d'effondrement d'espèces. Et là, c'est plutôt des individus, parce que l'espèce abeille domestique n'est pas en danger en tant qu'espèce. Le sujet de l'apiculture est un vrai sujet. C'est vrai que cet arachnide, le varroa, cet acarien, serait presque le suspect numéro un dans l'affaiblissement de pas mal de colonies. C'est un vrai sujet, l'apiculture, c'est multifactoriel, c'est très difficile. Il y a certains problèmes de l'abeille domestique qui sont communs aux autres abeilles sauvages, et puis d'autres qui sont vraiment spécifiques au fait de les exploiter dans des ruches depuis très longtemps.
Pierre Dagaty.
Oui, alors c'est effectivement, comme dit François, c'est extrêmement complexe. Il y a eu l'arrivée de tout un tas de parasites, comme la varroa, de maladies qui sont arrivés.
Qui sont arrivés d'où, enfin, je veux dire.
Des échanges divers.
Entre
il y a eu aussi en France, on ne sait pas parce que, enfin, pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Mais en Allemagne, par exemple, on sait que depuis 1950, on a perdu 80% de la diversité génétique des abeilles. Mmh. Hein, vous savez que on a une sélection des reines sur des abeilles d'origine slovène qui présentent une grande, ça c'est comme les prix Holstein chez les vaches, hein, une grande docilité, donc elles sont pas agressives, elles produisent beaucoup de miel. Par contre, le fait d'avoir un petit peu cloné, si vous voulez, les populations d'abeilles, a certainement affaibli leur résistance naturelle. Il ne faut pas oublier que les abeilles ont traversé les airs avec toutes les saletés qu'on pouvait mettre dans les cultures autrefois. On mettait du mercure, on mettait de l'arsenic. Mmh. Hein, et il y avait toujours des abeilles.
Quand on y songe, hein. Patricia, très très vite, parce que votre petit message est très sympa, mais allez-y très vite, parce qu'on va bientôt arriver au bout de la pendule. Allez-y, on vous écoute, bonsoir.
Bonsoir, juste pour signaler une série d'albums jeunesse qui est vraiment super, avec plein de petites bêtes du jardin, Patouche la mouche, Grâce la limace, c'est Gallimard Jeunesse et c'est fait par Anton Kring, c'est sorti il y a une quinzaine d'années et c'est vraiment super.
Voilà, voilà. Et c'est le bon moyen, merci beaucoup et merci d'avoir été si courte Patricia, vous êtes formidable, le bon moyen d'éviter ce que je disais tout à l'heure, qui sont tous moches, qui piquent et qui grattent les insectes, une bonne manière de les apprivoiser d'une certaine façon. Il y avait une dernière question qui a dit disparu parce qu'on n'a plus le temps, mais il y a ce paradoxe que soulignent beaucoup de nos auditeurs et qui disent en même temps on nous explique que bientôt on va les manger les insectes parce que ça va être une vraie source de protéines et on nous explique qu'ils sont en train de disparaître. Est-ce qu'il n'y a pas une petite forme de paradoxe là derrière?
On va manger 4 ou 5 espèces hein,
oui.
Et
on mange bien des poulets alors que les autres disparaissent. Ce seront des espèces spécifiques.
Et ce sera le mot de la fin. On mangera des poulets et aussi quelques insectes, mais 5 seulement. Allez, 5 insectes, c'est comme les fruits et légumes. Portez-vous bien.